Merci pour ce parcours qui nous a fait, nous a conduit après la résurrection du Seigneur Jésus par le Seigneur vivant intervenant dans notre vie. Et de Pierre, Jean, nous continuons le parcours dans le Nouveau Testament et nous allons vers Paul puisque nous sommes en train d'étudier l'épître de Paul aux Philippiens. Et donc je vous invite à lire quelques versets où Paul parle un peu de lui, parle de sa situation en tant que prisonnier, et parle aussi des soutiens qu'il a reçus. Je vous invite donc à lire dans Philippiens, au chapitre 2, les versets 19 à 30. Philippiens 2, chapitre 19 à 30. « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même par les nouvelles que j'aurai de vous. » Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour se soucier sincèrement de votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux du Christ Jésus. Vous savez qu'il a fait ses preuves et que, comme un enfant auprès de son Père, il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. J'espère donc vous l'envoyer dès que je verrai clair dans ma situation. Mais j'ai confiance dans le Seigneur que je viendrai bientôt moi-même. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre et de combat, que vous m'avez envoyé et à qui vous avez donné de quoi pourvoir à mes besoins. Il désirait ardemment vous voir tous. Il était fort en peine de ce que vous avez appris sa maladie. En effet, il a été malade et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui. Et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec beaucoup d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été prêt de mourir, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à l'absence de votre service pour moi. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Jusqu'ici, notre lecture. Mardi soir, dans les couloirs du métro de Lille, Cécile, une jeune femme de 29 ans, est harcelée et menacée par un jeune homme alcoolisé. Elle le repousse à plusieurs reprises. Elle arrive finalement au travers des couloirs sur le quai où il y a du monde, une dizaine de personnes le saluent certainement. L'homme continue son agression devant tous. Elle résiste, montre qu'elle est victime, que ce n'est pas un jeu. Personne n'intervient. Le métro arrive. Cécile pénètre dans la rame pourchassée par son agresseur. Les usagers choisissent la rame d'à côté, la laissant seule avec l'homme. Il lui faudra s'en sortir seule, non sans avoir subi les assauts de son agresseur, livré à lui par l'indifférence des gens. Des psychologues sont venus à la télévision nous parler du syndrome du passant. Plus il y a de monde, moins l'individu se sent concerné par l'action nécessaire. Et j'ai envie d'ajouter, plus il y a de brillantes explications comme celle-ci, moins les individus que nous sommes se sentiront concernés par leur devoir humain. Nous avons ici, surtout, un triste coup de miroir sur nos indifférences, sur nos peurs, sur nos égoïsmes coupables. Le coup de miroir fait mal. Car sommes-nous bien sûrs que nous aurions mieux agi si nous avions été présents ce soir-là sur le quai du métro? J'espère que cette femme retrouvera un jour des raisons concrètes d'avoir confiance dans les autres. Car un monde de chacun pour soi, où le seul courage est celui qui nous dit de ne rien faire, ce monde-là est désespérant. Nous avons besoin en tout cas d'armer nos cœurs, d'armer nos dispositions en vue du courage et de la solidarité pour qu'ils soient des réalités vécues et non pas de vains mots. ou une illusion sur nous-mêmes si nous nous rêvons un peu trop en héros. Nous venons de lire un passage au ton assez personnel de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens. L'apôtre y dit tout le bienfait qu'il a reçu par deux chrétiens dont la solidarité a été un vrai soutien pour lui dans son emprisonnement. Arrêtons-nous donc à ce double témoignage qui vient à point pour nous montrer un autre visage de ce que peuvent être nos relations. J'espère dans le Seigneur, dit l'apôtre Paul, vous envoyer bientôt Timothée. L'apôtre est prisonnier, il est dans les chaînes, comme il le dit. Il peut, selon l'issue de son procès, être soit libéré, soit décapité. Il doit faire face à tout cela, parcourir le long chemin intérieur qu'exige la situation. Isolement partiel, en tout cas extérieur, du fait de ses circonstances, solitude intérieure à cause du chemin à faire. Mais voici un nom, Timothée. Timothée qui nous dit que l'apôtre n'est pas seul. J'espère vous envoyer bientôt Timothée. Timothée. Serait-ce un chrétien de Rome qui n'habitait pas trop loin de la prison de Paul et qui de ce fait est venu lui rendre visite de temps en temps? Pas vraiment. Timothée. Serait-ce alors un chargé de mission auprès de l'apôtre, envoyé par les églises pour le soutenir? Pas à ce qu'on sache non plus. Si Timothée est à Rome, c'est qu'il a choisi d'être auprès de l'apôtre Paul. Il n'était pas du voyage vers Rome avec Paul, Luc et Aristarque, ce voyage où l'apôtre a fait naufrage. Il a probablement pu croire à un moment donné Paul perdu corps et biens, s'il a appris que son bateau avait fait naufrage. Mais il a su que l'apôtre était arrivé à Rome, qu'il était prisonnier, et il avait choisi de venir auprès de lui. Et Paul apprécie sa présence au plus haut point, nous l'avons lu. Timothée. Ce n'est ni plus ni moins le collaborateur de Paul qui a été le plus longtemps à ses côtés. Paul l'a pris à ses côtés alors qu'il était un tout jeune homme et un tout jeune chrétien, un tout jeune converti. Ils ont été ensemble dès le deuxième voyage de Paul, à Philippe d'abord, à Thessalonique, à Athènes, à Corinthe, à Éphèse. Timothée a tout appris de Paul, a tout reçu de lui. Il l'a accompagné, ils ont travaillé ensemble. Parfois, Timothée a été envoyé pour quelques missions particulières, apporter une lettre, prendre des nouvelles. Autrement, et la plupart du temps, il a agi en soutien de Paul, en second, sous l'autorité de Paul. Probablement souvent dans son ombre, mais avec fidélité. Et maintenant que Paul est prisonnier à Rome, il est présent avec la même fidélité. Mais Timothée, dites-moi, Timothée le solidaire, Timothée du point de vue de son caractère, cela rime avec témérité pour qu'il soit là. Pas vraiment. Timothée, cela rime avec timidité, avec plutôt effacé. En général, quand on pense à Timothée, on connaît un verset sur lui, sur son caractère. Une parole que Paul lui a dite, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et Paul parle même de ces maux d'estomac fréquents, un craintif. Intimide. Ainsi le voilà résumé pour nous, notre Timothée. Cadré, pas de quoi en faire un héros de la solidarité. Dans le métro de Lille, ce n'est pas lui qui se serait levé. Mais écoutons Paul. Je n'ai ici personne qui partage mes sentiments, personne sauf lui. Et l'apôtre continue, « Personne qui se soucie aussi de votre situation à vous, chrétiens de Philippe, sauf lui. » Et Paul enfonce le clou, « Tous cherchent leur propre intérêt et non ceux du Christ, sauf Timothée. » Car dit l'apôtre, « Vous savez qu'il a fait ses preuves, que comme un enfant auprès de son père, il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. » Personne qui partage mes sentiments, L'apôtre est bien seul dans sa prison avec son souci de la continuation de l'évangile et les questions sur son propre sort à venir. Les chrétiens de Rome sont peut-être venus le voir, mais ils avaient leurs propres préoccupations, leurs soucis d'église peut-être, leurs soucis de famille. Peut-être voulait-il même ne pas trop se montrer aux côtés de l'apôtre Paul, au cas où cela tournerait mal, comme ce qu'ont pensé les gens peut-être sur le quai du métro à Lille. Qui fait la différence? Qui sort du lot? Pas un super-héros, mais quelqu'un qui, avec ses limites et son caractère, avec la sincérité de son amour pour le Seigneur et pour Paul, a fait preuve aux côtés de l'apôtre d'une fidélité simple de tous les jours. Mais maintenant que c'est plus dur, il est encore là, toujours par fidélité, toujours par solidarité. Le rapport qu'ils entretiennent est un rapport filial. Timothée est comme un enfant auprès de son père, dit l'apôtre Paul. Depuis toujours, il y a eu cette relation quasi paternelle. Mais dit Paul, voilà quelqu'un qui partage mes sentiments. Avec lui, je peux parler de ce que je ressens, pour moi, par rapport à ma situation. Avec lui, je peux parler de l'œuvre de Dieu. On se retrouve et sincèrement, il aime le Seigneur, il aime son œuvre. C'est infiniment précieux. Nous avons cette connivence de longue date, connivence filiale, oui, bien sûr, mais vraie connivence dans la fidélité. Et nous avons ici, me semble-t-il, un visage de la solidarité qu'il est bon de recueillir. Ce n'est pas une solidarité de grands super-héros, mais c'est la solidarité de quelqu'un qui est proche dans la durée, dans l'affection, dans le partage, dans la fidélité régulière, des engagements communs. Fidélité et loyauté envers Paul. Fidélité et loyauté envers Dieu. Paul souligne que Timothée s'est mis au service de l'Évangile. Et de cette manière simple et naturelle pour lui, Timothée est là maintenant, auprès de l'apôtre, au moment où c'est plus difficile, où l'apôtre est seul. C'est dans la ligne de ce qu'il a toujours fait, de ce qu'il a toujours été. Un fils spirituel pour Paul, mais un fils qui n'abandonne pas et qui permet une présence, une connivence infiniment précieuse pour l'apôtre. Je trouve que c'est un bel encouragement. Pas besoin d'être un super-héros pour être solidaire. L'affection, la fidélité du quotidien, ça compte énormément. Ça unit, ça bâtit du solide entre les gens. C'est une base qui fait que l'on peut se retrouver fortement, profondément. Je n'ai personne comme lui, dit l'apôtre Paul, à cause de cette connivence. Pensons-y pour nous aussi, dans notre vie, dans nos relations. La solidarité, elle se construit dans ces relations d'amitié, d'écoute, de connivence, que l'on tisse simplement au fil du temps, dans les grands moments comme dans les joies simples de la vie. La solidarité, cela peut devenir aussi l'un des fruits des relations fraternelles, des engagements communs, qui fait que l'on est proche. La connivence est là. Le pont est facile à faire. On a la liberté de s'appeler en cas de besoin, en cas d'absence, en cas de souci pour l'autre. On se comprend quand il faut aborder peut-être des choses personnelles. Cultivons cela simplement. Cultivons cela solidement. Voilà la solidarité du côté de ce que Paul a reçu par Timothée. Mais nous voyons ici, et c'est un deuxième regard sur ce texte, Paul faire preuve lui aussi d'un bel esprit de solidarité. Car il dit « J'espère vous envoyer bientôt Timothée ». Et il nous faut ici entendre deux phrases comme en stéréo. « Je n'ai personne comme lui, voici j'espère vous l'envoyer ». Paul voyait ses amis de Philippe, les chrétiens de Philippe, comme dignes du meilleur de ce qu'il avait à leur donner, à leur envoyer. Alors dire « je veux vous envoyer Timothée », c'est relativement facile à écrire, mais quel prix pour le mettre en œuvre. Ces mots signifient pour l'apôtre se priver d'un vrai soutien. Juste un peu plus loin, on voit Paul avoir la même attitude à l'égard d'un autre chrétien, Épaphrodite. C'est un frère qui était venu le rejoindre depuis Philippe pour lui apporter un soutien de la part des chrétiens de Philippe. Et il dit « Je vous le renvoie, car il désire ardemment vous revoir Et je vous le renvoie pour votre joie à tous, vraiment, de le retrouver. Paul manifeste ici très concrètement l'esprit du Christ qu'il avait recommandé à ses frères d'imiter. Ayez en vous les dispositions qui étaient en Jésus. Il n'a pas regardé ses avantages à lui comme une proie à ravir à tout prix. Paul montre aussi concrètement ce que veut dire considérer les autres comme étant au-dessus de soi-même. Ça veut dire vraiment leur donner priorité. Priorité à eux, priorité à leurs besoins, priorité à leur joie. On voit ici une belle cohérence de l'apôtre Paul. Et c'est une belle illustration de la solidarité et de ses fondements profonds. Cette disposition à l'autre dont Jésus nous donne l'exemple, dont il veut nous insuffler la force. Voilà ce que fait Paul en se disant « Timothée, qui est mon plus précieux soutien, je suis prêt à vous l'envoyer, vous chrétiens de Philippe. » Un vrai disciple du Seigneur Jésus, inspiré par son exemple. Mais j'aimerais relever quand même deux traits complémentaires et assez remarquables de cet envoi prévu de Paul, de Timothée par Paul. Paul est prêt à envoyer Timothée, mais pas tout de suite. Il dit « J'espère vous l'envoyer dès que je verrai clair sur ma situation. » C'est au verset 23. Paul vit une situation très incertaine avec son procès en vue. L'avenir est incertain. Le soutien de Timothée lui est précieux pendant cet intervalle. Il veut donc attendre d'y voir un peu plus clair, attendre d'être fixé sur son sort, sur ce qui est sur la suite des événements. Et nous voyons ici que Paul garde le sens des priorités, tout en étant disposé à la solidarité. Et Paul considère que sa situation à lui peut être prioritaire pour un temps. Et ça nous rappelle que la solidarité chrétienne ne veut pas dire se liquéfier complètement devant les autres. Ça ne veut pas dire cesser d'exister et de considérer que par définition, l'autre est toujours prioritaire, quelle que soit la situation. Il arrive, il doit arriver que l'on puisse dire « Je suis prêt à m'ouvrir à ton besoin, oui, mais j'ai aussi d'autres priorités. Je cherche à faire le moyen de faire un pas vers toi, mais ce sera peut-être plus tard. J'ai aussi d'autres choses à considérer. » C'est ici ce que fait Paul au regard de sa situation personnelle. Il est légitime d'avoir des priorités pour soi, même si l'on veut être solidaire des autres. Et c'est ainsi que Paul enverra Épaphrodite, mais gardera un temps Timothée auprès de lui, tout en désirant manifester sa solidarité par un envoi ultérieur de Timothée. Je crois que nous avons à assumer cela aussi dans nos rapports mutuels pour des relations saines. Savoir équilibrer l'ouverture aux autres, oui, il faut être ouvert aux autres, oui, il faut être disponible, mais ça doit être équilibré aussi avec le sens des priorités. Et je ne parle pas ici, bien sûr, d'une situation impérieuse comme celle du métro de Lille. Là, il y a des situations qui obligent à l'action. Mais dans les rapports plus réguliers, où la solidarité doit être vécue, il y a place pour d'autres priorités légitimes, parfois, à mettre en avant. Une deuxième remarque que j'aimerais faire à propos de cette solidarité que Paul envisage par l'envoi de Timothée, c'est la force que Paul puise dans la foi. Et j'aimerais relever juste quelques mots très significatifs. « J'espère dans le Seigneur, dit-il, de vous envoyer bientôt Timothée. J'ai même cette confiance dans le Seigneur, dit-il au verset 24, que je viendrai bientôt moi-même. » Autrement dit, Paul voit sa situation qui est exigeante et pleine d'incertitudes sous l'angle de la confiance en Dieu, sous l'angle de l'espérance en lui. Il s'attend vraiment au Seigneur. C'est pour ça qu'il dit « J'attends, j'espère dans le Seigneur, à cause de l'intervention du Seigneur, de pouvoir vous envoyer bientôt Timothée. » Paul s'attend vraiment au Seigneur Il lui a tout remis. Il lui a tout confié. C'est ce qui lui permet de ne pas faire peser sa situation sur le dos des autres, sur le dos des chrétiens de Philippe. C'est ce qui a fait que cette lettre écrite en prison s'appelle non pas les lamentations de Paul dans ses limitations, mais s'appelle l'épître de la joie. S'en remettre à Dieu, tout lui abandonner, s'attendre à lui, libère des forces de vraie disponibilité. Et cela donne des occasions, des ressources de solidarité, là où autrement, on pourrait tellement s'enfermer sur soi. La confiance qui libère, qui permet de meilleures ouvertures, de merveilles, de meilleure solidarité. J'espère dans le Seigneur, dit l'apôtre, vous envoyer bientôt Timothée. Et donc nous avons avec cet exemple de l'apôtre, oui, la place d'une vraie solidarité, mais d'une solidarité mise en relation avec nos priorités. Il faut toujours évaluer les choses malgré tout. Et une solidarité qui peut aussi trouver force et ressources dans la confiance en Dieu. Mais ce passage nous parle d'un autre versant de la solidarité. Et ce versant est celui de l'accueil de la solidarité par ceux qui en bénéficient. Et c'est l'angle particulier sur lequel nous découvrons Épaphrodite, le troisième personnage de ce passage. Épaphrodite a été délégué par les Philippiens pour apporter une aide à l'apôtre Paul dans sa prison. Et c'est un geste remarquable de solidarité de leur part. Épaphrodite a fait le long voyage jusqu'à Rome. Et il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait ni EasyJet, ni TGV. Des semaines de trajet, avec tous les aléas et les dangers du voyage. Arrivé auprès de Paul, il est tombé malade et très gravement. Il a été, dit Paul au verset 27, tout près de la mort. Il a pris en charge. Comment, où a été-il soigné? On ne le sait pas. Loin des siens, sans attache, il a dû endurer cette épreuve. Et Paul, sans liberté, n'avait que la prière pour action en faveur d'Épaphrodite. Comment Paul reçoit-il, accueille-t-il Épaphrodite? Ce qui est clair, c'est que pour Paul, cet homme, ce frère qui vient, est plus que le simple facteur qui transmet la solidarité des Philippiens. Il est impliqué lui-même, Paul le reconnaît. Et la maladie, la mort qu'il frôle de près, rend évidente cette implication personnelle, bien qu'il soit l'envoyé de l'Église. Et ce qui frappe, c'est la façon dont Paul parle d'Épaphrodite, dont il reçoit, dont il accueille l'expression de solidarité. « J'ai estimé nécessaire, dit-il au verset 25, de vous renvoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre et de combat. » Tous les mots ici disent l'affection, l'estime. Paul souligne le lien personnel. Il est mon frère. Ce n'est pas la formule passe-partout. Je vous renvoie notre frère Épaphrodite. Non, non. Paul tient à s'impliquer. Je vous envoie mon frère. Quelque chose de fort s'est noué entre eux. Il est aussi, dit Paul, mon compagnon d'œuvre et de combat. Paul met Épaphrodite au même niveau que le sien. Dans l'œuvre de Dieu. Il avait juste avant fait le même avec Timothée, en disant « Timothée s'est consacré avec moi au service de l'Évangile ». Il avait dit qu'il est comme un fils avec son père, mais Paul ne dit pas « il s'est consacré pour moi au service de l'Évangile », mais il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile, sur le même plan. C'est la façon dont Paul considère ceux qui travaillent avec lui, ceux qui sont à ses côtés. On ne sait rien, par ailleurs, de cet Épaphrodite dont il est question ici. Il n'est mentionné nulle part ailleurs. Et on peut penser que quand Paul l'appelle son compagnon d'œuvre et de combat, c'est à cause de cette mission que Épaphrodite vient d'accomplir pour lui. L'apôtre a accueilli l'engagement, la solidarité d'Épaphrodite et lui a donné une vraie valeur. Cet homme, par ce qu'il a fait, par sa solidarité active, est un vrai compagnon de combat et d'œuvre pour l'Évangile. Paul également s'est solidarisé de la situation d'Éphrodite lorsqu'il est tombé malade. La guérison d'Épaphrodite est une marque de la pitié de Dieu pour Épaphrodite lui-même. Mais Paul ajoute, le Seigneur a eu aussi pitié de moi. Il a eu aussi pitié de moi. Paul était impliqué, concerné par cette maladie. Il en a fait une sorte de cas personnel devant Dieu. Et cela amène aussi l'apôtre à lever un petit coin du voile sur ce qu'il vit intimement. Il est dit, Dieu le Seigneur a eu pitié de moi afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Au verset 27. Cette épître est pleine de la joie de l'apôtre Paul qui dit, oui, je me réjouis devant Dieu, réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais il faut savoir que cette joie de l'apôtre, elle se vit sur le fond de difficultés et de tristesse qu'il a fallu surmonter. Et Paul reçoit de la part du Seigneur la guérison d'Épaphrodite comme une sorte de limite à l'accumulation de ses tristesses. Autrement dit, avec Dieu, il n'y a pas de loi des séries. Lorsque tristesse et difficultés s'enchaînent, nous pouvons aussi lui demander, comme Paul ici, de ne pas accumuler tristesse sur tristesse et d'avoir pitié de nous comme il a eu pitié de Paul en montrant sa puissance et sa grâce. Voilà, si vous voulez, le contexte dans lequel Paul a reçu ce geste d'Épaphrodite avec ce prix qui était mis aussi par l'épreuve de santé, la maladie d'Épaphrodite. Et Paul est reconnaissant de ce qu'il a reçu et par l'engagement d'Épaphrodite. Et reconnaissant, pas simplement au sens de dire merci, mais reconnaissant dans le sens supplémentaire qui consiste à reconnaître la valeur de la personne qui a fait cela, à l'estimer vraiment pour ce qu'elle a fait. Paul fait une place, nous l'avons dit, à Épaphrodite, à ses côtés, comme collaborateur de l'œuvre de Dieu. Et Paul n'a pas cette attitude qui consiste à maintenir ses frères à distance. Il reconnaît ce qu'ils font. Il dit sa gratitude haut et fort. Et il le fait pour un frère comme Épaphrodite. Il le fera aussi pour des sœurs dans la foi. Lisez Romains 16 et tous les mots qu'il a pour le travail et l'engagement des femmes, des nombreuses femmes à l'œuvre dans l'Église. En tout cas, Paul tient à rendre hommage à l'engagement d'Épaphrodite en ayant bénéficié de sa solidarité. Accueillez-le dans le Seigneur, dit-il aux chrétiens de Philippe, et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre du Christ qu'il a été prêt de mourir, ayant exposé sa vie pour ce service. Honorez de tels hommes, dit l'apôtre, après avoir exposé par ses mots à lui, toute l'estime qu'il a pour Épaphrodite et pour la solidarité dont il a fait preuve. Nous dirons facilement merci au Seigneur pour Épaphrodite. Merci Seigneur d'avoir donné Épaphrodite. Et je crois que nous sommes parfois un peu les champions de ce genre de détour qui remercie le Seigneur pour les marques de solidarité. Merci Seigneur merci au Seigneur pour sa fidélité dans les finances de l'Église. On prie ça parfois, on le dit. Et c'est vrai, c'est bien, c'est très vrai qu'il faut remercier le Seigneur pour cette fidélité-là. Mais il y a aussi des hommes, des femmes qui ont donné pour que les finances de l'Église puissent bien fonctionner. Et il est important aussi de le noter. Et Paul dit, honorez de telles personnes. Ne les happez pas au nom de la bonté et de la fidélité de Dieu reçue par leurs moyens. L'enjeu, me semble-t-il, c'est de ne pas banaliser la solidarité dont nous sommes l'objet. Quand il y a solidarité, il y a toujours quelqu'un qui a fait un geste, quelqu'un qui a payé de sa personne. Et le Seigneur nous invite à voir cela, à l'apprécier et à manifester notre estime, à savoir manifester notre estime. Et manifester notre estime, ce n'est pas s'aplatir, hein. Ce n'est pas faire des tas de courbettes et devenir servile à l'égard de ceux qui nous ont fait du bien. Paul parle ici un langage d'hommes et de femmes debout. Honorez de telles personnes, honorez-les, appréciez-les, valorisez-les. Faites de votre reconnaissance l'occasion d'un meilleur vis-à-vis plein d'estime. Faites que cela enrichisse votre vision de l'autre, que cela enrichisse aussi votre relation mutuelle. Mais de grâce, ne banalisez pas la solidarité dont vous bénéficiez. Ne la considérez pas comme normale, comme étant un dû, mais sachez dire, sachez montrer votre reconnaissance par une vraie, par une belle estime mutuelle qui dit merci, mais qui dit aussi c'est bien, c'est beau ce que tu fais, c'est un beau service pour le Seigneur, c'est un beau cadeau que tu m'as fait ou que tu as fait à mes frères, à mes sœurs. Et je pense que c'est aussi là une manière de stimuler la solidarité. Nous le savons tous, une vraie appréciation est un puissant moteur, est un vrai encouragement à continuer. Essayons d'être artisans de solidarité aussi par notre manière de la recevoir et par l'estime que nous apprendrons à exprimer. Une solidarité qui tombe à plat, qui ne marque aucune reconnaissance, aucune réaction, est difficile, décourageante. Une solidarité qui débouche sur l'estime apporte vraiment un encouragement à continuer. Alors nous voici avec ces exemples très, très courants, très, très, très concrets de la vie de Paul ici, Paul, Timothée, Épaphrodite. Entre ces trois, la solidarité est devenue par toutes sortes de moyens une force communicative dans l'affection, dans la reconnaissance, dans la foi, dans l'espérance, dans le respect de chacun, dans l'estime. Développons ces mêmes attitudes, ces mêmes dispositions. Elles sont le label du Seigneur Jésus en personne. Amen.